Quelle est la bonne recette pour préparer et aborder un trail? Réponse avec Sylvain Co, l'un des plus beaux palmarès français en trail. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance et qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvain Court, un habitué des podiums en trail avec de belles victoires et je le répète, l'un des plus beaux palmarès français en trail. Deux titres de champion de France, un titre de champion du monde en individuel en 2015, double champion du monde en équipe. Et si on le voyait un petit peu moins depuis quelques saisons car il se consacrait aux travaux de sa maison, il se prépare à de gros objectifs cette saison et notamment l'UTMB dont le plateau s'annonce grandiose. Avec Sylvain, nous en parlons de son parcours, de son entraînement, comment il se prépare et s'entraîne, des séances qu'il peut faire, de la descente, de l'avantage de venir du VTT pour les trajectoires et bien entendu de nutrition. Et dans le domaine, il nous donne des conseils précieux pour bien aborder le trail avant, pendant et après. Allez, c'est parti. Bonjour Sylvain.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va super. Impec.
D'accord. Impec.
Ouais.
Alors tu sais, j'ai une tradition, je demande toujours aux invités s'ils ont fait du sport. S'ils sont entraînés aujourd'hui, dans quel état d'esprit ils sont?
J'ai fait, une séance de sport ce matin. Donc, c'était un footing d'une heure. Plutôt cool, avec cinq lignes droites à la fin sur notre piste d'athlée, là où je travaille, à l'école des pupilles de l'air, sur Montbonneau-Saint-Martin. Voilà, c'était une séance de récupération, car la veille, j'ai fait une dernière grosse séance de seuil. Avant le Trail du Ventoux qui a lieu dans une dizaine de jours.
Ah oui, Trail du Ventoux, ça grimpe ça.
Ouais, ça grimpe plutôt fort, le Mont Chauve, comme on l'appelle.
Tu l'as déjà fait?
Oui, je l'ai dû le faire 4-5 fois à peu près, déjà.
Ouais, bon, c'est un terrain inconnu, donc il n'y a pas de grande surprise, tu sais comment ça va se passer.
Oui, bah, je connais le parcours, je connais un peu le niveau de la course qui est tous les ans assez élevé. On va dire que c'est la grosse course de début de saison pour se jauger un petit peu. Donc, on va dire que c'est souvent un niveau au niveau national, voire européen en termes de plateau. Donc voilà, c'est surtout pour moi un test. Hein. Après, j'évolue un petit peu moins sur ces formats-là depuis quelques années.
Alors, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Donc, on va faire les présentations quand même. Parce que, bon, toi, tu as un avantage, c'est que tu as une fiche Wikipédia. Alors, je ne sais pas si elle dit des conneries ou pas. D'accord ? Donc, je vais te laisser te présenter et moi, je regarderai si en même temps, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'ils ont oubliés, etc., des trucs comme ça. Mais en quelques mots, comment tu te présentes?
Nom, prénom, Court Sylvain, Sylvain Court, voilà. Je suis né dans le Var, à Draguignan. Donc, je suis plutôt varois, sudiste, on va dire. Et puis, j'ai bossé... Donc ça fait presque une vingtaine d'années que je travaille dans l'armée de l'air. Voilà, j'ai été 12 ans sur Bordeaux. Et puis là, très récemment, maintenant depuis quand même quelques années, je suis sur la Savoie. Et je travaille en Isère, à l'école des pupilles de l'air. Voilà, toujours dans l'armée de l'air.
T'as un sacré terrain d'entraînement là?
Oui, on va dire que ça a évolué dans le positif par rapport à Bordeaux. Où quand j'ai commencé le trail, c'était pas évident parce que c'était des côtes maximum de 50-60 mètres de dénivelé sur les hauteurs de Floirac, même précisément. Et après tous les week-ends, donc c'était un emploi du temps assez chargé, le boulot la semaine, et les week-ends, je partais au Pays Basque m'entraîner sur la Rune, à côté de Saint-Jean-de-Luz. Et puis depuis fin 2016, j'ai déménagé sur la Savoie, et c'est vrai que là je suis un peu, on va dire, au paradis du trailer et même de tout sportif outdoor, on va dire.
Ouais, à la Rune, j'ai eu un invité il n'y a pas longtemps qui en a parlé de cette course, qui m'a dit quand même que c'était un sacré monument. Hein.
Ouais. Alors c'est pas une immense montagne hein, comme on peut retrouver dans les Alpes, mais c'est une belle montagne. Au-dessus de, arrivé au sommet, on a une superbe vue sur toute la côte atlantique. Et surtout après, c'est la course, la Sky Run, où il y a une ambiance vraiment stratosphérique avec tous les Basques qui sont des personnes très festives. Qui adore mettre le feu aux courses, même des grosses ambiances. Donc ça vaut le coup d'y aller au moins une fois comme ça dans sa vie.
Ouais. Ouais. Bon, et en fait, en tout ça, tu nous as pas donné ton palmarès, et pourtant, sauf si ta page Wikipédia raconte des bêtises, mais il y a quand même un sacré palmarès.
Ouais, après j'ai gagné pas mal de courses durant ma carrière. Je vais pas tout évoquer, hein, mais bon, voilà, je peux pas me vanter non plus que j'ai gagné 30 millions de courses, mais pour les grandes lignes, j'ai été champion du monde en 2015, médaillé de bronze individuel en 2016. Je crois qu'on a gagné deux ou trois titres de champion du monde en championnat du monde par équipe. J'ai gagné deux fois les championnats de France. J'ai gagné le Trail Tour National, ça c'est à mes tout débuts en 2012, si je me trompe pas. Et puis après, en grande ligne de palmarès, ça va être l'Éco-Trail de Paris. J'ai remporté le 90 km du Mont Blanc, l'Échappée Belle. C'était mon premier gros ultra dans le massif de Belledonne. Et 90 du Mont Blanc, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, c'est un petit peu les courses. Je suis quatrième du Lavaredo. Ouais, il y en a quelques-unes, ouais.
Si je me trompe pas, et tu vas me dire, quand vous avez été, tu m'as dit, c'est quoi? Vous étiez en championnat du monde de trail. C'est champion du monde de trail?
Oui, champion du monde individuel en 2015, voilà. Annecy.
C'est ça. Annecy. Et par équipe?
Et par équipe, donc à Annecy, au Portugal. L'année suivante, je fais troisième en individuel et donc on gagne par équipe. Et après, l'année qui suit, l'édition suivante, c'était peut-être Peñagolos. Non, c'était l'Italie sur un format plus court. Et là, je ne sais plus si on gagne ou on fait deuxième. Je ne sais plus trop. Ouais, je retiens pas toutes les courses, désolé.
Ouais, non mais c'est pas grave, mais en fait c'est parce que, tu sais, moi je suis en Auvergne, et je vois les noms que t'as là, sur les champions du monde de trail.
Ah oui, les autres coureurs avec qui j'ai...
Alors, il faut le dire, Thomas Laure Blanchet, qui était champion du monde de trail, et peut-être était Patrick Bringer aussi, fait partie des médaillés aux champions du monde de trail. T'étais avec lui l'année où vous avez fait le...
Alors à Annecy, oui, j'étais avec lui, on était ensemble. Patrick fait une super course hein, parce qu'il fait troisième. Et puis on gagne ensemble le titre par équipe à Annecy. Voilà. Après, il y a Romain Maillard aussi qui est du coin. Et qui n'était pas en 2015, il n'était pas en 2016. Mais en 2017, je ne me souviens plus, 2017, 2018. Mais il a été médaillé par équipe aussi, ouais.
Ouais. Mais en fait, ce que je me pose comme question, c'est que ça ressemble à quoi les championnats du monde de trail, en fait, par rapport à d'autres courses, aux grands trails, tu vois, que tu peux faire? Il y a un truc particulier, il y a des... Ça a évolué avec le temps, comme type de course, ou comment ça se passe?
On va dire que la principale, déjà la base d'un championnat du monde, c'est un petit peu comme on peut retrouver sur n'importe quel autre championnat du monde d'un autre sport, c'est-à-dire la représentativité d'une équipe, d'une nation. Ouais. Donc on court avec un maillot représentatif de l'équipe de France. Donc ce qui change par rapport aux autres courses de l'année, c'est déjà la tenue. Là, on est obligé de mettre un petit peu de côté notre maillot équipementier. Donc ce qui pose des fois quelques petits soucis parce que les partenaires avec lesquels on court nous aident tout au long de l'année pour assouvir notre passion et puis voilà. Donc là, c'est vrai que c'est une course dans l'année où on ne pourra pas représenter notre partenaire comme il le voudrait. Donc c'est un petit sacrifice à avoir, mais Bon, moi, c'était un rêve de gamin de courir avec le maillot équipe de France. Donc, ouais. Voilà, ça s'est fait. Donc, c'est courir avec le maillot de son pays. L'année des championnats du monde en 2015, il me semble qu'on était presque une cinquantaine de nations au départ.
Ouais.
Donc, voilà, par rapport aux autres années où ils étaient peut-être 30 ou 20. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, c'est vrai que c'est un sport qui se développe énormément. Au début, c'était plutôt canalisé sur l'Europe. Maintenant, c'est dans le monde entier. Mmh. Et on a de plus en plus de nations, en fait, qui viennent courir en championnat du monde. Donc, ce qui est une très bonne chose, hein, pour notre sport. Et puis en plus, après, ça va être le format de course aussi, qui est quand même assez cadenassé, c'est-à-dire que sur le championnat du monde, on va dire courte distance, on est sur des formats entre plutôt marathon de montagne, 42 km, mmh. 42 à 50 km, et la distance un peu phare des championnats du monde sur longue distance, c'est 85 km. Donc c'est un format qu'on a retrouvé à Annecy en 2015, 85 km, au Portugal. Après l'Italie, là, il y a eu un changement. On est redescendu sur un format 50 km. Après l'Espagne, on est retourné en 2018 sur un format 85 km. Après 2019, il me semble que c'était un format marathon. Donc là, pendant des années, ça a été un mix, une année sur deux, un format très long, 85, un format 40. Et puis là, ce sera un peu la nouveauté cette année, bon, qui était prévu en fin d'année dernière, c'était de faire un genre, enfin moi je le prends un petit peu comme ça, un genre de mini-JO, la course en montagne en Thaïlande.
Ouais.
Où là on aura un petit peu tous les formats de course à pied en montagne qui existent. Donc il y aura la course en montagne pure, historique là, qui fait entre 9 et 12 km, ou soit c'est en format que montée ou montée descente. On aura un championnat du monde de kilomètres vertical, si je ne me trompe pas, un championnat du monde de longue distance, sera 40-50 km. Et un peu ultra longue distance, 85. Donc voilà, en fait, tout va être regroupé sur un même championnat du monde, donc en Thaïlande, au mois de novembre.
Ouais, ça fait un bel événement. Il y en a, je pense, en plus, il y a des gens qui connaissent pas le principe de la course de montagne, qui savaient pas que la course de montagne existait. Alors, moi, j'ai eu dans mon club une jeune fille qui était double championne de France espoir, donc j'ai été sensibilisé parce que notre club participait et tout. Mais c'est vrai que ce principe, parce qu'on parle beaucoup du trail, finalement, qui se développe beaucoup, ce format course de montagne qui existe depuis beaucoup plus longtemps et qui est affilié à la fédération, qui a même d'ailleurs des règles très spéciales parce que c'est vraiment très cadenassé les règles comparées à ce qu'on a comme règles. Le trail sur les ravitaillements, enfin il n'y a même pas de ravitaillement d'ailleurs, tu peux même pas prendre ta gourde d'eau je crois sur une course de montagne en plus.
Alors course en montagne, alors moi j'ai jamais fait de sélection en équipe de France sur course en montagne, mais il me semble que le format est tellement court, tellement rapide que en fait on est presque sur un effort 10 km sur route et semi-marathon quoi, c'est du 40 minutes à 1 heure d'effort. Donc pour être performant, enfin la stratégie nutritionnelle en course elle sert quasiment à rien, les gars ils passent sans rien du tout quoi, même pas une gourde, ça part à fond, voilà quoi, donc pas de ravito.
C'est quoi ton format préféré?
Mon format un peu une prédilection on va dire, c'est plus, enfin, c'est assez précis hein, mais c'est vrai que c'est plus entre 80 et 100 km. C'est les formats que j'aime beaucoup parce que bah il y a une notion une grosse notion de gestion de course, de la longue distance, donc il y a un côté tactique, voilà, faut pas partir trop fort et c'est 8 à 10 heures de course. Donc on part généralement de nuit, donc moi j'aime bien courir une petite partie de nuit avec la frontale, le côté un peu aventure, puis être un peu en montagne, isolé, je trouve ça sympa. On n'a pas l'impression d'être sur une compétition. Et puis après, voilà, on part pour toute la journée et généralement la course elle s'arrête. On part soit très tôt dans la nuit et puis on arrive vers les midi, 13, 14 heures. Donc c'est 8 à 10 heures d'effort. Il faut une grosse gestion, que ce soit tactique, nutritionnelle en course. Et voilà, c'est des formats vraiment que j'aime. Après, c'est vrai que là, petit à petit, j'essaye de d'évoluer de, sur de l'ultra parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, que je maîtrise pas du tout. Et voilà, j'aimerais bien un petit peu apprendre sur ces formats-là.
Ouais, parce que en fait, ta fiche Wikipédia, et je reviens dessus, tu sais, moi, c'est mon guide, et je vois que t'avais quand même des formats qui étaient des 55 km, des 50 km. D'ailleurs, et je vois un truc au passage, c'est que t'as gagné le Gruissant Phébus Trail en 2013, ça remonte loin, mais je vois que t'avais fait 50 bornes en 3h49. Alors moi qui passe mes vacances dans ce coin-là, et qui vois les chemins, la caillasse qu'il y a, les montées, les descentes, etc., je me dis quand même, faut y envoyer sur ces trucs, sur ces terrains-là, quoi.
Ouais. Ben c'est vrai que c'est bon, c'est une course qui remonte à pas mal d'années, mais ouais, en fait, ça paye pas de mine ces coins-là. On croirait que bon, y a pas, ouais, c'est pas un dénivelé de montagne, mais dès qu'on arrive, on sort un petit peu des routes, des pistes 4x4 qui sont bien roulantes. Ben on part dans les chemins et c'est pas du tout la même musique, quoi. Là, on s'attaque aux cailloux. Bah d'ailleurs, une année, j'avais fait une belle chute dans les cailloux, là.
Ouais.
Ouais, c'est pas si évident que ça, quoi. Et, 50... et puis, ça court tout du long. Donc, c'était la première année où je l'avais fait, c'était peut-être 2010. Et c'était ma première année de trail longue distance, entre guillemets. Et j'arrivais de Bordeaux et je m'étais cassé un peu les dents dessus. Là, j'avais fait une bonne partie de la course plutôt dans le groupe de tête. Et à 10 km de l'arrivée, j'ai pris une grosse hypoglycémie et... J'ai presque fini tout en marchant et voilà, pour dire que des fois, des courses roulantes, entre guillemets, comme ça, c'est pas toujours les plus faciles.
Ouais. Ah oui, mais en fait, ça m'étonne pas du tout parce que quand je vois je me dis les moyennes qu'il y a dessus, etc. T'as une course où vraiment t'as un mauvais souvenir, où ça s'est vraiment mal passé?
Oui, bien sûr. Ouais, j'ai, durant ma carrière, moi, j'ai pas toujours été, moi, j'ai plutôt une carrière qui est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire j'ai fait des bonnes courses, des championnats du monde 2015, ouais, ça a été la course magique où j'ai eu des sensations incroyables du début à la fin. Voilà, par exemple, le Phébus, ça s'est bien passé au début, les derniers kilomètres merdiques. voilà, on va dire que, ouais, une vraiment très dure, ça va être peut-être les championnats du monde. En Espagne en 2018, où alors je vais dire dur aussi bien physiquement que psychologiquement, parce que bah, en fait je revenais d'un championnat du monde en 2017 où ça s'était pas très très bien passé sur ce format 50 km. J'étais peut-être un peu tendu au départ, c'était la première fois que on faisait un championnat du monde aussi court, donc on savait que ça allait partir très fort avec les Américains qui avaient lancé la course vraiment très fort. Et voilà, moi je suis parti avec eux et ça a tenu un moment, puis à un moment ça a pété, eux aussi les Américains ils ont lâché, puis au final c'est les Espagnols qui s'en sont bien sortis. Et puis aussi, voilà, je voudrais souligner la paire de Cédric, voilà, cette année-là, qui fait troisième, Cédric Fleurton. Et donc voilà, un peu une déception pour moi, je crois que j'avais fini à peine dans le top 20, un truc comme ça. Et du coup, en 2018, donc on revenait sur un format 85 km qui était normalement mon format de prédilection que j'adorais. Et ben en gros, j'ai fait 50 km à l'avant de la course avec Tom Evans et Luis Alberto. Et à un moment, on passait dans des gorges entre le 50 et le 60e kilomètre. Et il faisait une très très grosse chaleur. Et là, j'ai pris un gros coup de chaud sur le crâne. Et si bien que, en fait, j'ai même perdu conscience, là. Je me suis assis sur le bas-côté, j'arrivais plus à avancer. Et là, j'ai même eu un trou de mémoire, en fait. J'ai rallié le ravito suivant, mais je sais même pas comment. J'ai perdu carrément souvenir des 5 km qui ont suivi pour rallier le ravitaillement. Et voilà, et au ravitaillement, j'ai pu me refaire un peu la cerise. Et comme c'était le maillot équipe de France, je voulais pas abandonner. Et voilà, j'ai fini la course, je crois, top 20 encore. Et bon, c'était pas du tout la place que je recherchais. Donc voilà, physiquement, ça a été dur pour rallier l'arrivée. Mentalement, très dur parce que bah, j'attendais vraiment mieux de cette course. Et je voulais, je suis compétiteur et ayant gagné déjà un championnat du monde, je voulais renouer avec au moins un podium ou une victoire parce que j'avais bien préparé cette course. Mais ce jour-là, ben, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais rêvé. Et c'est aussi ça, la carrière d'un sportif. Il faut savoir accepter ses moments durs, ses défaites, et apprendre et se relever, pas baisser les armes.
Mais comment tu te fais refaire la cerise là, à ce ravitaillement, alors que tu as 5 bornes où tu te rappelles de rien, etc. Et comment tu fais quoi pour remettre en fait la machine en route?
Ben là, ça a été vraiment blackout total. J'ai vraiment halluciné. Je suis arrivé au ravito. Et je pense que j'ai fait une hypoglycémie de l'espace. tout est arrivé, gros coup de chaud, hypoglycémie. Et je suis arrivé au ravito. Et voilà, les gars ne comprenaient pas, le staff équipe de France, que j'étais tout d'un coup groupe de tête et tout. Là, et puis d'un coup, je me retrouve dans les 10, 12e. Donc ils se sont dit, putain, mais il s'est passé quelque chose, quoi. Tu t'es arrêté.
Tu as fait des photos.
Ouais, c'est ça. T'es cherché les champignons, quoi. Et non, j'aurais dit, sur le moment, j'ai dû prendre une hypo, un coup de chaud, je me souviens pas des 5 derniers kilomètres que j'ai fait, mais bon, je suis là, sain et sauf, pour l'instant ça va. Donc, je me suis arrêté un moment et je me suis assis, j'ai mangé pas mal, ouais, pour me refaire un petit peu, et puis à un moment la question s'est posée, est-ce que tu repars, est-ce que tu repars pas? Et voilà, enfin, ça m'embêtait vraiment d'abandonner. Encore, ça aurait pas été une course équipe de France, j'aurais peut-être mis le clignotant, mais voilà, je voulais quand même finir. Et voilà, je me suis refait un petit peu en mangeant, en me reposant, en buvant. Et c'est reparti. J'ai mis une casquette que j'avais oubliée au ravito suivant. Donc ça a peut-être été aussi ça la cause de mon coup de chaud. Voilà, bon, j'ai pu finir en tout cas.
Ouais, et c'est quoi le ravito type que tu... Parce que bon, enfin, on n'a pas dit depuis combien de temps tu cours, mais j'ai l'impression que tu as toujours couru.
Non. En fait, j'ai commencé la course à pied assez tard. Je crois que c'est en 2008. Sur le semi-marathon de Bordeaux, donc pas du tout du trail.
Ouais.
Et donc 2008, j'avais 23 ans, et avant je faisais du VTT, ouais. VTT cross-country, j'ai fait de la descente, donc ça c'était dans mon adolescence. Et je pense que ça m'a bien aidé, ça m'a apporté quelques qualités, notamment sur la technicité, sur les chemins. En descente, c'est vrai que j'adore me faire plaisir en descente, encore plus qu'en montée, mais les descentes en trail, des fois je suis un peu folle dingue, je vais pas à la fond. Voilà, j'adore ça, c'est vraiment l'amusement pour moi, je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et puis voilà, mais c'est vrai que je fais de la course à pied depuis, on va dire, 12 ans maintenant.
C'est vrai que la descente, on en parle pas tant que ça, mais j'en avais discuté un jour avec c'est Yuan Stu qui me disait qu'en descente il était pas bon et que ça le stressait parce qu'il perdait des places et tout. On se rend pas compte à quel point c'est important les descentes dans ces courses là.
Ouais, c'est vrai que c'est important parce que en fait faut déjà à la base il y a un côté appréhension. C'est vrai que plus t'as peur et plus tu vas te ça c'est au niveau physique, tu vas te contracter au niveau du muscle, au niveau des muscles, des cuisses, tout ça, tu vas être plus stressé, tu vas être plus tendu, tu vas plus freiner avec tes quadris et du coup tu vas occasionner beaucoup plus de casse musculaire, de lésions musculaires, et que si tu te laisses un petit peu dévaler dans la pente, voilà, tu vas un peu moins freiner avec les quadris, tu vas faire un peu moins de casse musculaire. Mais tout ça, en fait, je trouve qu'il y a pas mal de psychologie là-dedans. Moi, c'est vrai que j'aborde la descente vraiment avec un côté plaisir. Je sais que voilà, je vais me régaler, je vais sauter de pierre en pierre. Il y a un côté amusement, ludique, qui fait que voilà, ça passe bien et j'ai aucun stress là-dedans. Mais c'est vrai que sur ces courses-là, le stress peut engendrer pas mal de choses négatives, quoi, au niveau de la forme, au niveau de plein de choses, quoi.
Ouais, mais si on te met avec Grégory Volé là dans une descente, ça doit y envoyer, non là, enfin...
Ah oui, il descend bien aussi, ouais, il paraît. Ouais. Ouais. Là, c'est un ancien vététiste, hein.
Ouais.
Donc c'est sûr que là, ça envoie fort. Hein. Greg et Grégory Volé, il y a Kylian aussi qui descend très fort.
Ouais.
Marc Loewenstein. Ouais, il y en a quelques très bons. Au Ventoux, on s'était tiré une grosse bourre avec Marc Loewenstein aussi en descente. Il y a des mecs qui descendent vraiment très fort. Ouais. Mais pour ça, ouais, pour descendre fort, après, c'est comme tout, en fait. Faut en bouffer, de la descente, faut en faire. Et puis voilà, après, il y a des petites techniques qui font que on acquérit. Est-ce que des fois aussi, c'est le... moi, je sais que tout l'hiver, je fais plutôt du ski, du home trainer, de la course sur du plat, de la piste. Et on perd un petit peu ses qualités musculaires au niveau des quadris. Les fibres musculaires s'affaiblissent un petit peu. Et moi, j'aime bien, en début de saison, me faire... Ça, c'est pour la petite astuce du chef. Là, c'est faire des petites descentes un peu au taquet. Ouais. Des fois, je fais des sorties là, à partir de février-mars. Ou la dernière descente, je vais faire ce qu'on appelle de la casse de fibre. Donc, la dernière descente à bloc de chez bloc, quoi. Donc, tu arrives à la voiture, tu arrives presque plus à tenir sur tes jambes tellement tu as cassé de fibre. Tu boitilles pendant une semaine, mais voilà. Après, derrière, tu reconsolides hyper solidement les jambes et tu te sens beaucoup plus solide dans les descentes suivantes. Et voilà, ça permet de bien lancer la saison. Au niveau des descentes, du moins.
Eh bien, écoute, alors tu sais, là, ils sont tous en train de noter l'astuce. Ils vont tous s'amuser dans les descentes à descendre à fond comme ça. Et tous ceux qui vont boiter, c'est qu'ils auront écouté l'épisode de podcast. Mais ils te remercieront après cet été sur les courses, etc. Ils diront, ah, l'astuce, elle était quand même super bonne.
Ouais, sauf s'ils se tordent une cheville, quoi. Là, ils m'en voudront, je pense.
Non, mais en plus, on voit tous ces images parce que moi, sur Instagram, on voit tous ces images de coureurs qui se tordent les chevilles en descendant, etc. C'est vrai que. Après, il y a une technique, il y a le pied, les qualités de pied aussi qui font qu'on descend pas bien. Moi, j'ai fait un jour une reconnaissance avec Patrick Bringer, justement. J'avais vu descendre. Et moi, je commençais le trail à ce moment-là. Je disais, mais, enfin, je comprenais pas comment, en fait, il courait lui et comment moi je courais. J'avais l'impression de pas être dans le même sport, en fait.
Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est pas les mêmes appuis, les mêmes c'est beaucoup aussi la descente, c'est comment dire, c'est comme en VTT, en fait, c'est une côté appréhension, rapidité aussi de calcul de la trajectoire, en fait. Ayant fait du VTT, en fait, il y a quelques personnes qui ont analysé que ceux qui ont fait du VTT ont une analyse de la trajectoire, des appuis en descente qui est un petit peu plus rapide qu'un coureur pur. C'est-à-dire que nous, après, c'est une certaine logique. C'est-à-dire qu'en VTT, nous, les descentes qu'on fait en trail, on a l'habitude de les faire deux fois plus rapidement, quoi. D'autres fois plus rapidement. Donc, du coup, ton cerveau, il stimule beaucoup plus de capacité, de vitesse d'analyse de la trajectoire, des appuis, tout ça et tout. Et c'est vrai que le VTT, c'est un bon plus aussi ça aide pour les descentes, pour tout ça. Mais après, il y a les qualités de proprioception, les qualités musculaires à pas négliger, quoi.
Tu fais un mix parce que tu disais l'hiver tu fais du ski, donc de la piste, des choses comme ça. Tu continues à faire du vélo, tu fais tu as plusieurs sports finalement. Comment tu mixes un peu?
Alors là, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est pas évident parce que mes saisons hivernales sont pas mal consacrées aux travaux de notre maison. Parce que depuis 2 ans, on rénove une maison. C'est un gros projet qu'on a entrepris avec ma femme et on fait tout nous-mêmes. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, le week-end, j'ai un petit peu moins le temps de faire du ski de rando, du ski de fond. Mais on va aller sur un hiver assez type là quand j'aurai fini. Normalement, j'ai fini les travaux cette année. L'hiver prochain, je repartirai sur du ski de fond, du ski de rando les week-ends. Et après la semaine au boulot, j'ai pas trop le temps de pouvoir monter au ski. Donc ça va être plutôt une culture assez attelée pure, des séances sur piste, parce qu'on a une piste d'athlétisme au boulot. On a de belles infrastructures. Donc piste, séance de VMA sur piste la semaine, petit footing de récup, vélo en salle, renforcement musculaire avec gainage, proprioception, et puis le week-end, c'est plaisir en montagne, quoi, ski de fond, ski de rando, et puis quand il fait vraiment mauvais, un peu de home trainer, tout ça, quoi.
Il y en a qui se demandent finalement quelle est la place, parce que tu parles de VMA, alors forcément il y en a qui font du trail qui se disent est-ce que je dois faire beaucoup de VMA, pas beaucoup, comment finalement l'importance des différents types d'entraînement, de vitesse, etc. pour bien se préparer?
Alors bon, après moi, avec mon entraîneur, ouais, en fait, en gros, l'hiver, on fait beaucoup plus de VMA. Alors après, c'est vrai qu'il y a des profils de coureurs différents. Quelqu'un comme, je vais prendre l'exemple, François Daen, lui, c'est vrai qu'il fait beaucoup, beaucoup de volume l'hiver, en ski de rando, en ski de fond, tout ça. Il y a beaucoup de, bah, comme David Thévenard aussi, fait beaucoup de ski de fond, de volume. Et c'est vrai que nous, on a une démarche un petit peu plus différente avec mon entraîneur, Philippe Lepage. C'est de faire travailler les qualités de vitesse l'hiver. Donc, on fait beaucoup, c'est des semaines qui sont pas très volumineuses en kilométrage et en heures d'entraînement, mais qui sont beaucoup basés sur les qualités de vitesse, les qualités athlétiques, les travails de pied, travail aussi en musculation, tout ça. Donc on fait en gros une à deux séances de VMA par semaine. Alors généralement, début de semaine, c'est plutôt une VMA courte, de type alors soit du 30-30 en nature, ou des 1 minute, ou des séances en côte courte, des 10 fois 30 secondes, 10 fois 45, 10 fois 1 minute, ou soit ça va être des séances courtes sur piste, des 200, des 400, voilà. Et après, le jeudi, on va faire plutôt des séances un petit peu demi-fond, des 1000, des 2000, des 3000, voilà, pour regagner un petit peu en vitesse, parce que tout au long de la saison trail, c'est vrai que notre rythme de course, il est plutôt, on va dire, sur ultra, entre 7-8 km/h et 12 km/h au maximum. Donc, on perd un petit peu ses qualités de vitesse durant la saison trail. Et je pense que c'est... Et puis bon, moi, en même temps, c'est un plaisir de travailler ça l'hiver. Ça me permet aussi de changer un peu d'entraînement, d'aller sur des notions un peu de recherche différentes de la performance. C'est vrai que l'été, on recherche plus, voilà, de la longue distance, grimper le sommet le plus vite possible, le redescendre le plus vite possible. Et là, c'est des notions un petit peu chronométriques sur des distances, sur des 200, des 400, des 1000, même 10 000. J'ai moi-même plaisir, bah, l'hiver, d'essayer d'améliorer un peu, voilà, quelques chronos sur 400, sur 1000, 5000, 10 000. Voilà, c'est une recherche différente et par contre, à la fin de l'hiver, j'en peux plus de la piste et j'ai vraiment hâte de retourner en montagne. Mais voilà, c'est pour dire que je pense que c'est important de varier son entraînement. Alors, en tout cas, si on veut vraiment progresser et encore plus à haut niveau, il faut essayer d'être, on va dire, moyen bon un petit peu partout plutôt qu'excellent en montée et nul en descente. Et puis moyen sur le plat, je pense que c'est bien de travailler un petit peu toutes les qualités.
Ouais. Tu fais partie de ceux qui font du cross aussi ou pas du tout ?
Alors les cross, je me contente jusqu'à aujourd'hui, en fait, je fais que les cross militaires. Donc on en a deux, environ deux par an. On a le championnat de France armée de l'air et championnat de France interarmée. Donc voilà, c'est les deux championnats qu'on a. Mais alors le niveau armée de l'air est déjà très bon. Hein. C'est des coureurs qui, moi, je suis sous. Bah là, cette année, j'ai fait le podium sur les championnats de France armée de l'air. La gagne, c'est des gars qui courent en 29 presque au 10 km. Et puis après, quand on est sur l'interarme militaire, donc ça, c'est pour voilà, pour les internautes, hein, pour mesurer un peu la performance au niveau de nos armées, ça peut être des coureurs qui valent 29 minutes, 28 minutes, voire voilà, 28 minutes au 10 km. Quoi. Donc ça reste quand même du haut niveau. On a des personnes comme Johan Koval, des athlètes olympiques qui courent sur ces interarmes de cross. Hein. Et c'est du haut niveau. Et... Ça décalamine bien.
Ouais, parce qu'en fait, on le dit pas trop, mais c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui le savent pas, mais c'est vrai que l'armée a beaucoup de coureurs qui s'entraînent finalement et à qui elle donne des conditions aussi d'entraînement.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bah, à l'armée, il y a le programme armée de champions, donc c'est tous les sportifs olympiques qui représentent la nation et l'armée. Donc voilà, il y a beaucoup d'athlètes de différents sports. En trail, il n'y a pas ce programme-là, parce que le trail n'est pas encore un sport olympique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de coureurs.
Ouais. Tiens, toi qui as porté le maillot de l'équipe de France et pour qui c'était important de porter le maillot de l'équipe de France, t'aimerais que le trail devienne olympique ?
Ça, c'est une grande question dans le milieu. Il y a des gros pour, des gros contre. Moi, personnellement, je ne serais pas contre. Moi, je serais vraiment pour. Il y en a beaucoup qui disent voilà, que ça dénaturerait un petit peu le sport. Je veux dire, moi, je ne trouve pas. Après, moi, c'est tellement un rêve de gamin déjà de courir avec le maillot équipe de France. Et encore plus, j'aurais tellement aimé courir les Jeux Olympiques. Quand je regardais les Jeux Olympiques gamin, j'avais des étoiles plein les yeux. Je me souviens, je regardais ça avec mon papa. Voilà, c'était vraiment un rêve pour moi d'y participer. Bon, je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, après, c'est le format qui est un petit peu à discuter, quoi. Alors, si c'est un format en boucle, c'est sûr que ce serait pas super, super cool. Mais bon, si c'est une fois tous les 4 ans, voilà, juste tous les 4 ans et que le reste de la saison, par contre, on garde les mêmes formats de course qu'on a actuellement. Je vois pas le côté négatif que ça apporterait. Moi, je serais plutôt pour.
Ouais, c'est vrai qu'après, il y a les JO, il faut la médiatisation, il faut pouvoir filmer les choses. Souvent, c'est ça qui joue en fait. On voit en cyclisme où ils tournent, je sais pas combien ils ont fait fois le tour, la même boucle, peut-être 25 fois ou 30 fois. Donc, au bout d'un moment, peut-être que on se dit, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus quand on court, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Pour l'athlète. C'est sûr, je pense pas que ce soit des plus attrayants. Après, peut-être faire un parcours un peu comme on voit en VTT, un parcours un peu spectaculaire, très technique, très télégénique. Une boucle de 10 km que tu fais 5 fois ou 8 fois. Après, c'est sûr que ce serait compliqué au niveau... parce qu'il faudrait même un format qui ne soit pas trop long, parce que 8 heures de course, pour capter l'attention des gens, donc ce serait plutôt peut-être un format 40-50 km, 3-4 heures de course maximum, mais sachant que l'audimat serait plutôt sur la dernière heure de course, quoi. Tu sais, là où ça se jouerait le plus, quoi. Mais moi, je ne serais pas contre. En tout cas, moi, c'est tellement un rêve de gamin de courir aux Jeux Olympiques. Je serais forcément pour, mais...
Ouais, mais je te comprends en fait. Je te comprends tellement parce que moi aussi je regardais ça avec des grands yeux, etc., en disant waouh, wow, c'est le rêve de gamin, vraiment. Mais quand t'étais gamin, c'était quoi ton sport? Dans quoi t'aurais voulu faire les Jeux Olympiques?
En VTT, ouais. VTT. Les premiers JO, si je me souviens bien, c'était Miguel Martinez qui les avait gagnés à l'époque en VTT. Donc j'étais tout gamin, je l'avais vu gagner et depuis ce jour-là. Ça faisait 2 ans que je m'étais mis au VTT et c'est vrai que ce rêve olympique, tout ça, ça m'avait vraiment motivé. Et j'avais failli passer semi-pro en VTT et après mon entrée dans l'armée a fait que ma carrière s'est vite arrêtée, j'ai pas pu pousser plus loin. Aussi peut-être par le manque d'encadrement, j'avais pas forcément un entraîneur comme j'ai aujourd'hui qui me suit aux petits oignons et qui a pu exploiter un peu tout mon potentiel. Là, à l'époque, c'est vrai que je m'entraînais un petit peu comme je pouvais, en suivant des plans aléatoires, des conseils comme ci comme ça. C'est vrai que les JO, ça m'aurait bien botté en VTT.
Ouais, et Miguel Martinez est champion olympique en 2000.
Ouais, ça remonte. Hein.
Ça remonte. Mais en fait, je suis en train de calculer. En fait, il a mon âge.
Athènes.
2000. Alors, non, c'est Atlanta. Non, c'est où? J'en sais rien.
Sydney, peut-être.
Je te dirai une bêtise, donc je vais pas te la dire.
Ok.
Parce qu'en fait, il avait gagné aussi la médaille de bronze à Atlanta. En fait, c'est pour ça que Atlanta, c'était 96. Il me semble, hein, les jeux Coca. Ouais. Sur la logique.
Sydney 2000, je crois.
Ouais,
c'est vrai. Athènes 2004.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il avait fait une année. Quand je regarde, il a été champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Il avait gagné quasiment toutes les compétitions cette année-là. C'était quand même. Mais je m'en souviens, tu vois. Maintenant que tu me redis le nom, je me dis oui, mais Miguel Martinez, évidemment.
Ouais, c'est ça, ouais. Et pour la petite anecdote, je l'ai vu sur Sierre-Zinal. L'année dernière, filmé Kylian, toute sa course, il était en VTT avec tout ce dispositif qu'ils ont maintenant, qui est très bien pour filmer en direct les courses. Et c'est lui qui suivait Kylian, donc Et c'était assez sympa, ouais. C'est vrai que choisir aussi un coureur aussi capé, aussi technique, voilà, il en faut hein, pour suivre Kylian en montagne. Il faut un mec au moins comme ça.
Bon, bah écoute, maintenant qu'on s'est replongé dans ses souvenirs, des vieux souvenirs et tout comme ça, on va quand même venir sur notre sujet de la nutrition, parce que tous ceux qui nous écoutent là, ils se disent, à quoi il carbure Sylvain, quand il court,
parce que au diesel ou sans plomb.
C'est quoi l'essence? C'est quoi t'as des puisque en plus ça fait on le dit ça fait des années que t'es au plus haut niveau, parce que je me rappelle même plus en quelle année t'as dit que t'avais été champion du monde, mais
2015.
Ouais, 2015. Donc tu ça fait des années maintenant que tu t'as eu des grosses blessures, ou t'as réussi à maintenir finalement de saison en saison sans te blesser, etc.
Généralement, enfin je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trop eu de grosses blessures. La seule grosse blessure que j'ai eue, c'était 3 semaines avant le championnat du monde en 2016, lors du stage équipe de France qui avait lieu à Saint-Martin-de-Vésubie. Je me suis fait une entorse, on s'était tiré la bourre avec Michel Lannes en descente, et je me suis fait une grosse entorse de la cheville, du coup ça a gonflé, donc j'étais très bien pris en charge par le staff de l'équipe de France, donc on a glacé, et après tous m'ont dit bon, on a 3 semaines des mondiaux, ce serait bien quand même que tu ailles faire une radio, vérifier et tout. Et moi je m'étais tellement bien préparé qu'en fait j'ai rien dit à personne et je suis jamais allé faire de radio. J'ai glacé un maximum chez moi, voilà, personne me voyait, donc j'ai traité le truc de mon côté.
Ouais.
Personne s'inquiète, et j'ai pris le départ des championnats du monde comme ça. Et voilà, et 2016, j'ai fait la course avec cette entorse, bon, qui avait déjà bien dégonflé. Et au 50e kilomètre, en fait, je me suis refaite en prenant des risques en descente pour rejoindre Luis Alberto qui était en tête. Et je me suis retordu bien la cheville. Et là, j'ai marché pendant 1 kilomètre et j'ai décidé de quand même continuer encore à chaud. J'avais pas trop mal, mais je sentais que ma cheville était vachement fébrile. Donc j'ai fini la course. Bon, je finis 3e, donc bon, ça s'est quand même pas trop mal passé. J'ai sauvé les meubles. mais voilà, on va dire que c'est plutôt voilà, le plus gros fait marquant dans ma carrière en termes de blessures.
Oui, donc c'est quand même remarquable de pas se blesser comme ça sur les années. T'as des stratégies spécifiques sur la nutrition, sur la récupération, sur la pour rester en forme et tout, pour parce que on n'a pas dit le volume de kilomètres que tu fais, mais finalement c'est quand même il y a des moments de l'année où tu dois avoir des grosses semaines.
Ouais, alors globalement. Pour vite fait mettre un éclairage sur mes volumes d'entraînement, l'hiver c'est pas très volumineux, on est plutôt entre même des fois 5-6 heures d'entraînement par semaine jusqu'à 10-12 heures en gros, c'est la moyenne. Mais après c'est vrai que quand on approche les courses du printemps et estival, donc c'est des courses beaucoup plus longues, et évidemment il faut faire beaucoup plus de foncier. Et là, on est plutôt entre 8 et des fois même 20 et 30 heures d'entraînement par semaine. Voilà, ben pour préparer un ultra, ben ça peut être toute la journée presque en montagne, hein, 7 à 10 heures en montagne, à crapahuter, à faire du dénivelé. Et voilà, donc c'est des gros volumes d'entraînement. Et pour les tenir, ben faut avoir une alimentation aussi qui soit adaptée. Donc, après, j'essaye d'adapter mon alimentation à peu près au volume d'entraînement, aux efforts que je fais. Donc l'hiver, après l'hiver, c'est aussi pour moi important psychologiquement de relâcher un petit peu le côté nutritionnel, c'est-à-dire de trop faire le job, comme on dit dans le jargon, de faire manger patates vapeur tous les jours, sardines, enfin bon, ça va un moment quoi. L'hiver, j'essaie justement de profiter, de faire de la raclette, de la tartiflette, surtout qu'on est dans une région qui est quand même assez festive, beaucoup de bons fromages.
Ce que j'allais te dire, t'es dans une région à fromage quand même quoi.
Donc voilà, faut profiter de la vie, pas passer à côté non plus. Et puis après, par contre, quand arrive le printemps, l'été, j'essaie de faire un petit peu plus attention, d'augmenter beaucoup plus mes rations quotidiennes en glucides, en protéines, les glucides pour l'énergie, pour le carburant. Hein. Souvent, mon entraîneur compare le corps humain un peu à une voiture. Donc, faut remplir, voilà, pour tenir longtemps le réservoir, mais en bon carburant. Donc, moi, souvent, c'est des légumineuses, des pois cassés, lentilles, riz complet, voilà, des pâtes. Et puis après en protéines, plutôt de, j'évite tout ce qui est porc, c'est plutôt du poulet, des sardines, des maquereaux, du thon. Voilà, donc j'adapte ça et aussi je fais attention à l'acidité des aliments aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je me préserve un peu des blessures. En pleine saison, quand je fais des gros volumes d'entraînement, j'essaie de limiter un petit peu l'alcool, les sucreries, tout ce qui est aliment un petit peu trop acide. Et puis aussi, je mange assez épicé. Assez épicé, beaucoup de curcuma, de cannelle dans les desserts, de poivre noir, de piment. Il paraît que voilà, les épices ont de sacrés bienfaits pour le corps. Et c'est vrai que depuis que j'ai une alimentation comme ça, un peu particulière, ce serait que l'hiver, je n'ai pas vraiment une nutrition très bonne. Voilà, j'essaye de l'équilibrer, je prends 2-3 kilos comme tout le monde.
C'est tout. Ça va.
Voilà, mon poids de forme, je suis plus à 65-66, et là l'hiver je monte à 70-71, c'est 5-6 kilos, mais après avec le sport qu'on fait, ça équilibre assez bien, donc voilà, ça va bien. Et puis surtout mentalement, ça permet de, voilà, de relâcher un peu la bride, de se faire plaisir. Et puis on a plus envie volontiers de, enfin on s'impose plus facilement quelques petites limites, comme le printemps, quand le printemps et l'été arrive, on s'est tellement fait plaisir l'hiver que voilà, le fait de remanger un petit peu plus de verdure, de salade, faire attention à son hygiène de vie, dormir un petit peu plus, ben ça passe beaucoup mieux, ouais, que voilà, vivre comme un moine toute l'année. Voilà, je pense que ça a ses limites.
C'est une discussion qu'on a eu avec Mathieu Blanchard dans un épisode récent qui a fait une 3e de l'UTMB l'an dernier. Et c'est vrai, il disait aussi qu'il faisait une grosse coupure l'hiver, alors qu'il n'est pas une coupure totale parce qu'il garde un peu, il garde du sport, de l'activité. Il change de sport aussi, un peu comme tu disais, hein, toi avec le ski, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est important de mentalement d'être prêt aussi pour attaquer au printemps, pour être frais, quoi.
Ouais, je pense que autant il y a la fraîcheur physique qui est hyper importante, et la fraîcheur mentale, et on le voit hein, de plus en plus. C'est un sport le trail qui évolue beaucoup. Il y a eu beaucoup d'analyses scientifiques. Il y a beaucoup de voilà, c'est un sport qui se développe énormément au niveau de l'entraînement, des recherches physiologiques, tout ça. Et donc voilà, il y a une usure physique dans le trail et une usure mentale. Donc je pense que c'est important l'hiver, parce que notamment sur ultra, il faut avoir des ressources mentales. À un moment, le physique ne fait pas tout, quoi. Il faut aussi savoir se dépasser mentalement. La douleur, elle est tellement dure. Enfin moi, quand je vois l'UTMB, que le dernier que j'ai terminé, au 81 km, j'avais déjà plus de jambes, j'avais les jambes laminées, et je me dis, putain, il reste plus de la moitié à faire derrière. Et j'ai été assez surpris, de moi qui étais habitué à faire que des formats 80-100 km, de ce pouvoir du mental, quoi. Le mental, vraiment, arrive à faire énormément de choses avec le mental. On sous-estime que encore trop aujourd'hui. Et c'est pour ça que, comme dit voilà, Mathieu, je pense que c'est important de faire des grosses coupures l'hiver, que ce soit physiquement, mentalement, voire un petit peu autre chose, et repartir frais physiquement et mentalement pour le printemps, l'été.
Ouais. J'avais assisté à une conférence aussi avec Camille Brouillasse, et je crois qu'il y avait François Daen aussi ce jour-là, et puis il y avait même Kylian Jornette, et elle disait « courir 170 bornes, c'est quand même pas si naturel que ça. Il y a un moment donné, quand même, on le sent passer, quoi. »
Oui, c'est. Mais je pense que tout le monde souffre, hein. Même les premiers devant, voilà, tous on souffre, quoi. C'est vraiment pas naturel. Et quand tu vois dans l'état où on termine, on voit toujours les images d'arrivée. Donc on se dit, toi, le mec, il arrive, il est frais comme un gardon, tac et tout. Mais après, ce qu'on voit pas, ouais, c'est le lendemain. T'as les genoux qui ont doublé de volume pour certains, t'as des douleurs tendineuses de partout, des courbatures de l'espace pendant une à deux semaines, puis t'as une fatigue vraiment profonde du corps, c'est vraiment incroyable, quoi. Et ça on le voit pas, parce qu'évidemment à l'arrivée on est toujours voilà, tellement, voilà, c'est encore le mental, le pouvoir du mental, quoi. On oublie la douleur, c'est dans le dernier kilomètre qu'on se, il y a des ressources qui reviennent, on sent l'écurie qui arrive, et voilà, la pizza, la bière qui est à portée de main. et voilà, donc on franchit la ligne d'arrivée, on est hyper heureux, mais après, quand on se couche le soir, là, voilà, c'est dur, quoi. On sent que les jambes, on a quand même fait 170 bornes et la récupération va pas se passer comme ça, quoi, aussi facilement qu'on pourrait croire.
Ouais, mais tu vois, alors là, je vais rebondir parce que c'est quoi, justement, après un UTMB, après tes courses, etc., c'est quoi ton menu de récup? Celui, enfin, t'as commencé à le dire un peu, quoi. Tu fais plaisir plutôt ou tu es tout de suite sérieux et tout?
Ben moi, je suis plutôt dans le plaisir. Ouais. Plutôt dans le plaisir. Moi, j'adore tout ce qui est pizza, une bonne pizza, une bonne bière bien fraîche. Voilà, c'est j'adore. Alors après, je sais qu'au niveau de la récupération, c'est pas le top parce que en fait, il faudrait juste après recharger en glucides, en protéines, faire le plan alimentaire parfait. Voilà, mais on s'est tellement fait mal parce que ouais, préparer un UTMB, c'est pas que voilà 24 heures que voilà les dizaines d'heures de course qu'on fait, quoi. C'est que derrière il y a une préparation qui est quand même énorme, un investissement à tout niveau, quoi, en sacrifices familiaux et l'entraînement, quoi. C'est dur physiquement, mentalement. Donc voilà, t'as envie de faire un peu la fête, quoi. Ça vient clôturer cette course-là, notamment la ligne d'arrivée, bah, des mois de préparation, de sacrifice à tout niveau. Donc, merde, putain, j'ai envie de faire la fiesta, quoi. C'est ça, me faire péter une grosse pizza, faire un gros burger, voilà. Et puis après, les jours qui suivent, par contre, voilà, j'essaye quand même de faire un petit peu attention à augmenter ma recharge en glucides, en protéines, pour récupérer physiquement, mentalement, voilà.
T'as dit quelque chose tout à l'heure, j'ai noté là dans un petit coin, que tu t'évitais le porc. C'est une raison particulière? C'est par rapport à la santé? C'est par rapport... Il y a une raison particulière?
Ouais, bah après c'est... Ouais, c'est plutôt une au niveau goût, puis au niveau nutrition, quoi. J'ai toujours vu que c'était meilleur en fait de manger plutôt ce qui est blanc de poulet, blanc de dinde et tout. Donc je suis plutôt voilà focalisé là-dessus. Mais après c'est pas forcément voilà de bon, je sais pas de religion musulmane ou
non, mais il pourrait y avoir des je sais pas une intolérance, mais tu sais, dire finalement la qualité de la protéine elle me correspond pas, ou je me suis rendu compte que c'est pas très bon, ou alors finalement ils sont remplis d'hormones peut-être et que ça me plaît pas, quoi.
Ouais, après peut-être aussi le fait que ouais, je pense que c'est aussi au niveau nutritionnel. C'est vrai que je potasse pas mal et j'ai vu tout ce qui est poulet, blanc de dinde, tout ça et tout, il y a de bonne qualité nutritionnelle. Le porc, il y a un petit peu de toxines dedans, donc voilà, il y a un peu de ça aussi. Mais après je suis pas hyper fixé, ça m'arrive de manger je peux manger du jambon, quoi. Je ne suis pas vraiment fermé là-dessus. Je mange vraiment de tout. Donc...
Tu as dit le mot sardine aussi tout à l'heure. Alors, tu n'en as pas trop parlé parce que tu as beaucoup parlé de blanc de poulet, etc. non, mais tu manges poisson, sardine, maquereau. Tu sais, on dit qu'il faut manger des poissons gras, des choses comme ça. Là. T'en manges tout ça ou non?
Si, justement. Moi, tout ce qui est petit poisson, en fait, sardine, maquereau. Alors, encore plus l'hiver. Pour les oméga, tout ça. Et j'essaye d'en manger au moins minimum une fois par semaine. Alors, ce soit des maquereaux, soit des sardines. Voilà, le saumon un petit peu moins. Mes sardines maquereaux, ouais, c'est au moins une fois par semaine, ouais. C'est bon pour les articulations, pour les tendons, il paraît. Donc voilà.
Ouais, puis je vais dire, même les Norvégiens vont te dire faut pas manger de saumon maintenant. Donc tu étais tranquille.
Ah oui. Ouais, puis il y a eu tellement d'infos ces derniers temps comme quoi le saumon c'était pas, voilà, pas si clean que ça que. Ouais. Voilà, j'arrête et on a basculé sur les petits poissons.
Ouais, ouais, ma diététicienne m'a dit vaut mieux manger maquereau, sardines, etc. Et effectivement, hein, quand on regarde un petit peu, t'as des produits où tu sais que parce qu'on va en parler par exemple avant une course. Tu vois, c'est une question que j'ai eue dans ma communauté il y a pas longtemps. Quelqu'un me dit il va faire l'éco-trail. Alors bon, ça c'est une course que tu connais bien et il me dit franchement. Je sais pas comment faire pour manger, sur les ravitaillements, comment je dois faire, les stratégies et tout. Alors, est-ce que tu aurais une stratégie à partager qui soit facile à suivre, tu sais, pour des gens qui sont des amateurs, hein, et qui voudraient quand même un petit peu se baliser un petit peu le terrain, là, tu vois, de dire comment on s'y prend?
D'accord. C'est-à-dire nutrition en course ou sur les ravitaillements?
Eh ben, est-ce que, par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient prendre avant?
Avant, c'est-à-dire avant les jours avant.
Ouais, les jours avant le départ.
Bah, les jours avant leur départ, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est augmenter sa recharge en glucides. Voilà, donc c'est globalement. Alors moi, j'essaye de préconiser des glucides qui soient assez de bonne qualité. Donc j'évite le riz blanc, en fait. Moi, je prends beaucoup de riz complet. Basmati complet, des pâtes à l'épeautre. Je limite un petit peu en fait tout ce qui est gluten, tout ce qui est pâtes à base de blé, tout ça. Donc c'est plutôt du riz avec du poulet. Sardines, j'évite un petit peu parce que je mets un petit peu plus de temps à les digérer. Je préconise en fait une alimentation qui soit assez digeste, un peu pauvre en fibres, même si dans le riz complet il y a un petit peu de fibres. Mais ouais, avec le riz complet, c'est fou. Moi, ça me donne une énergie. Enfin, j'ai l'impression vraiment de recharger en glucides. Mais ça, voilà, les glucides se fixent bien dans mon corps et j'ai de bonnes sensations généralement le lendemain quand je mange du riz complet. Et voilà, ça. Après la veille de la course, moi, c'est plutôt un repas assez plaisir. Donc, le jour des championnats du monde, quand j'ai gagné en 2015, j'avais mangé une pizza la veille.
Oh.
Donc, c'est vraiment très particulier. Alors, je vais pas vendre du rêve totalement. J'ai quand même mangé du riz.
Ouais.
Avec du blanc de poulet. Mais je me suis fait plaisir avec un quart de pizza, 4 fromages. Et puis, en dessert, une tarte aux pommes. Et ça, c'est vraiment mon truc. J'adore, voilà, la veille de la course, me faire une petite pâtisserie. Ça, c'est vraiment mon dada. Voilà, le côté mental. La touche de plaisir sucré, sachant que les jours avant, généralement, j'ai quand même fait un petit peu plus attention à mon alimentation. Je vais pas manger des gâteaux tous les jours non plus. Mais la veille, voilà, j'aime bien me faire plaisir un petit peu. Pas manger de trop non plus, pas alourdir le système digestif. Ça, je pense que c'est important parce que des fois, quand on est un peu stressé avant une course, on se dit, tiens, j'ai peut-être manqué d'énergie, tout ça. Donc, on a tendance à prendre des grosses rations de pâtes, de riz, tout ça. Et justement, c'est peut-être un petit peu l'erreur. Je pense qu'il faut rester sur ses formats habituels, sur ses assiettes habituelles. Voilà, sans en rajouter, pour pas alourdir le système digestif, les intestins qui sont très sollicités durant les courses, et encore plus quand on utilise des produits énergétiques un petit peu chimiques. Donc voilà, alléger le système digestif, manger des glucides de qualité, des protéines de qualité. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'avant-course.
Ouais, et moi je retiens la tarte aux pommes quand même, hein. Pizza, tarte aux pommes, la veille des championnats du monde. Ouais. Ouais, ça tu vois, et alors là moi je vais le noter, je vais le mettre en une et tout, on va le mettre sur Instagram, hein, parce que ça c'est le genre de truc, tu sais, moi j'aime bien ces secrets, en fait j'aime bien parce que t'as tout, tu sais, t'as tout le cadre, on dit faut manger ça strict, ça et ça et ça et tout, et puis quand on discute avec vous les uns et les autres, vous avez toujours des petits secrets, des petits trucs comme ça, tu vois. Un jour comme Antoine Mia, il me dit ouais mais moi j'aime bien avoir des Haribo dans mon sac, tu vois, dans un Ultra, etc. Je dis attends, des Haribo dans une course et tout, il y en a un qui dit moi je bois du Coca, tu vois, tout. Et t'as des petits trucs comme ça là, des autres que ta tarte aux pommes la veille de la course, t'as un petit truc secret là que tu mets dans ton sac?
Bon, des trucs secrets, bon, on va dire que c'est vraiment les pâtisseries la veille là. J'adore, je peux m'en faire même deux, hein. mais après pas plus, ouais. Une année où j'avais préparé les championnats du monde, j'avais fait le trail de la Sainte-Victoire. Et c'était une belle course, hein. C'était tiré la bourre avec Andy Simons, Ludo Pommeré, Nico Martin, tout ça et tout là. Et donc c'était voilà, gros niveau et tout. Et mine de rien, la veille, bah, j'avais gardé mes petites habitudes. On était passé avec mes parents à une boulangerie là. j'étais avec mes parents qui étaient venus voir la course là-bas et j'avais pris une tarte pomme, je crois, et un millefeuille. Et voilà. Boum, le truc, je t'ai posé le truc là comme ça. Et... c'est bien passé et le lendemain, voilà, vraiment aucun souci digestif ni rien. Enfin, du moment qu'on l'accepte mentalement, que voilà, après, il ne faut pas que ce soit, comment dire, une source de stress de se dire, voilà, putain, je vais manger une tarte aux pommes, putain, je vais prendre un kilo sur la balance, je vais. Enfin, la veille de la course, on va dire que toute stratégie au niveau entraînement et nutrition, c'est terminé, quoi. Ouais. C'est-à-dire, le job, il a été fait. Et la veille de la course, après, voilà, il ne faut pas se mettre une cuite non plus. Aller manger trop de choses, trop comme un gros sac ou enfin voilà, faut, mais tu peux te faire quand même un petit peu plaisir, quoi.
Ah, c'est cool. Alors le millefeuille, et ça aussi je le note, tu vois, parce que comme ça, quand la prochaine fois je mangerai un millefeuille avant une course, je pourrais marquer. Non, mais il y a un champion du monde, il a dit qu'il a gagné, qu'il gagne des courses en faisant ça. Écoute, hein, on va voir si ça marche pour moi. Alors, tiens, on va finir sur. On disait donc qu'on a dit avant la course, stratégie pendant la course. C'est quoi le petit truc, le conseil que tu donnerais pour essayer d'assurer un peu les choses?
Pendant la course, au niveau nutrition,
ouais.
C'est ça. Au niveau nutrition, je dirais. Je pense qu'on est tous un petit peu différents, on a des profils différents et des tolérances digestives différentes. Donc, peut-être, voilà, les choses que je vais dire là ce soir ne correspondent pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que je préfère mettre en garde parce que des fois, on entend des conseils par-ci, par-là. Et moi, le premier, hein, j'ai déjà mis. J'ai déjà testé des protocoles alimentaires d'autres personnes et ça m'a pas forcément réussi, au contraire ça m'a créé des désagréments, tout ça. Et moi personnellement, voilà ce que j'essaye de faire. Je suis quelqu'un qui transpire énormément, donc en fait je perds énormément de minéraux, donc en fait je mets un petit peu de sel en fait dans mon eau.
Ouais.
Donc, au niveau hydratation, je vais utiliser une eau où je vais mettre un petit peu de sodium, voilà, c'est une ou deux pincées de sel, de temps en temps un petit peu de miel dedans pour l'apport en fructose, en sucre, en bon sucre, et pour avoir un goût aussi pas trop chimique non plus. Et puis après en alimentaire, on va dire, je vais mixer, alors soit ça va être entre aliments naturels et puis aliments plutôt diététiques. Donc actuellement, j'utilise en diététique les bars et gaufres NAC. C'est une marque canadienne qui est avec des ingrédients assez naturels, vraiment voilà, que des bonnes choses dedans. Et puis après, à côté de ça, je vais mixer avec pâte de fruits, une demi-banane, une pâte d'amande. Voilà, c'est une alimentation pour moi qui me va bien et je prends toujours, par contre, au cas où, un ou deux gels sur moi si vraiment j'ai un gros coup de fringale. Mais en général, j'évite parce que c'est des sucres qui sont rapides, qui se diffusent rapidement dans le sang, mais qui peuvent créer une hypoglycémie réactionnelle. On a un afflux d'énergie très rapide et puis ça redescend des fois aussi vite. Donc, et au niveau du système digestif, c'est pas des produits qui sont très très bien toléré non plus, c'est jamais évident avec ces gels là. J'ai remarqué avec l'expérience que plus on en revient à une alimentation naturelle en course, et plus voilà, au niveau de la saturation aussi ça passe mieux, on arrive à durer plus longtemps, et surtout sur de l'ultra, c'est des courses qui sont tellement longues que au début on peut se permettre d'avoir une alimentation qui soit un petit peu entre guillemets chimiques, des produits diététiques assez comme les gels, assez durs et tout. Mais après, plus on avance sur la distance et la durée, et plus on a des envies. Après, c'est une histoire aussi de c'est une démarche assez personnelle qu'on découvre. Moi, que je travaille en fait à l'entraînement.
Ouais.
Quand je fais des grosses sorties en montagne de 8 à 10 heures, c'est là où justement je préconise aux personnes de vraiment être à l'écoute de ses sensations, de ce qu'on veut, et notamment quand on passe la barre des 5-6 heures de course, eh bien, on a des envies suivant les personnes qui sont vraiment différentes. Par exemple, j'en ai discuté avec mon entraîneur Philippe Propage, qui avait quelquefois fait des ultras avant, et lui, il avait par exemple des envies au bout de 10 heures de course, de par exemple de merguez qui trempait dans du roquefort.
C'est vrai?
Voilà, ouais.
Faut qu'on l'invite.
Et voilà, et lui, c'est vraiment particulier, quoi. Moi, c'est pas du tout ça qu'au bout de 10 heures de course que j'ai envie, quoi. Mais voilà, c'est pour dire que tous, on est différents, on a des envies différentes. Et la stratégie nutritionnelle qu'on voit sur les réseaux, c'est pas forcément celle qui va nous correspondre. Donc, il y a à en prendre et en laisser, je pense.
Mais sur une table de ravito, t'as les fameux petits tucs. Bon, prends ou t'en prends pas?
Ouais, j'évite, ouais. Je suis pas trop tuc, ouais.
Ouais.
Je trouve que ça se digère moyennement. Alors, si c'est vraiment une course très très longue et ça m'est arrivé d'en prendre un, vraiment, mais je pense que le corps est bien fait, et si j'en ai eu envie, je pense que quelque part au fond de moi j'avais un manque de sel, j'avais dû me déshydrater un petit peu, et là t'as envie de sel, t'as envie de bouffer du saucisson, du fromage, du tuc, et là ouais, j'ai plongé dessus, quoi. Mais ça arrive très rarement, quoi. C'est assez rare.
Ouais, j'ai vu aussi, t'as gagné pas mal de courses en Auvergne, et dans le Cantal, etc. Et des fois, je sais pas si c'était le cas sur ces courses-là, des fois il y a du fromage aussi sur les tables, du Nectaire, du Cantal, des choses comme ça. Tu prends ça sur les tables?
Ouais, ça, ouais. Par contre, le fromage, ça, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, parce que on en revient, en fait, au côté psychologique, quoi. C'est vrai que quand je passe au bout de 4-5 heures de course, t'as envie de saler. Moi, ce qui me donne envie, voilà, c'est ces petits dés de fromage, ces petites tranches de Saint-Nectaire. C'est super bon. Vous avez super fromage chez vous. Voilà, il n'y a pas à dire. Et puis pour la petite anecdote, en fait, sur l'échappée belle, c'était mon premier gros ultra en 2017, il me semble. Les 10 premières heures de course, j'avais adopté un peu la stratégie alimentaire que je t'avais dit avant. Et après, j'avais eu forcément cette saturation qui était arrivée du sucre. Et sur l'échappée belle, il y a vraiment une organisation qui est fabuleuse, et notamment au sein des ravitaillements où c'est beaucoup des acteurs locaux, enfin des locaux en fait, qui font les ravitaillements maison. Donc il y a les petites mamies qui concoctent des soupes maison pour les coureurs, de la charcuterie du coin, du fromage du coin, les petits sandwichs, voilà, c'est les anciens là, qui font ça, les bons montagnards, ils font les bons sandwichs rosettes, fromage et tout, et du coup toute ma fin de course, en fait, je l'ai passé à manger à chaque ravitaillement, je tournais plus de la moitié de mon alimentation au saucisson fromage facile. J'ai trouvé ça mais vraiment incroyable, puis ça m'a bien réussi, et entre ça je me mettais une petite pâte de fruits, une petite barre sucrée, mais beaucoup de fromage et de saucisson,
ouais. Ouais, rappelons que l'échappée belle, c'est une course que tu as gagnée. Alors, je sais pas si c'est cette année-là ou si.
Ouais, si, c'est cette année. Ouais, j'ai gagné cette année-là en plus. Ouais. Donc, voilà, pour dire que en mangeant du saucisson, du fromage, ça peut réussir aussi.
Bah écoute, je trouve que c'est une chouette vision des choses aussi, parce que c'est vrai que ça stresse les gens de se dire, ouais, il faudrait faire ça, un peu strict aussi des fois. Et puis. Tu l'as dit, hein, si le corps il a besoin de sel, il va le signaler aussi. C'est une envie qu'il va te montrer qu'il en a besoin. Donc finalement, si cet aliment-là te tente, c'est que ton corps en a besoin, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment et en fait, pour être serein, arriver serein sur une course, faut essayer de limiter les facteurs, les sources de stress, quoi. Et l'alimentation en est une. Et le fait de faire des sorties longues, de s'entraîner. Et c'est là, en fait, c'est le meilleur laboratoire, hein, l'entraînement et sortie longue, pour travailler ça, ces entraînements, la nutrition qu'on va utiliser en course, le matériel qu'on va utiliser en course, les chaussures, le sac, même le poids qu'on aura en course. Souvent, on néglige un peu ça, mais des fois, on court à l'entraînement avec des sacs très légers, et puis le jour de la course... quand on doit faire l'UTMB avec 3 kilos de barda sur le dos, bah, d'un coup, c'est plus la même, quoi. On est un peu surpris. Mais tous ces aspects-là, ouais, il faut le travailler à l'entraînement pour diminuer, je pense. Et ça, c'est vachement important, les sources de stress. Ça permet d'arriver le jour J. Bah là, tu es serein dans ta tête, quoi. Tu te dis, bah voilà, tout ce que j'ai dans mon sac, ce que je vais manger, bah, c'est acquis. Je sais que je le digère bien. Ça va bien se passer. Le matériel que j'ai, le poids sur le dos, bah, mon physique, il va tenir. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'à l'entraînement, je peux faire toute une journée en montagne avec 3-4 kilos sur le dos. Voilà, faut vraiment et le repas d'avant-course aussi, ça c'est aussi important. Ben, moi, des fois dans la semaine où j'ai des grosses séances le lendemain ou des grosses sorties en montagne à entraînement, ben, je travaille aussi ce petit repas d'avant-course. Je me fais plaisir, une tarte, une truc. Donc tout ça en fait, c'est travailler aussi à l'entraînement, quoi. C'est pas non plus de l'improvisation de dernière minute. Voilà, et encore plus, je pense qu'en recherche de la performance. Faut pas se voiler la face, quoi. Tout le monde travaille, toutes ces petites facettes là à l'entraînement, quoi.
Et ben écoute, c'est une très belle conclusion. Et moi, ça te demandait si tu as quels sont tes objectifs de l'année là qui arrive.
Alors, mes objectifs, ça va être surtout on va dire au niveau perso, c'est de terminer notre maison qui nous a pris beaucoup de temps et d'énergie durant 2 ans. Et c'est vrai que c'est un facteur assez limitant dans la performance. Et j'en ai fait l'expérience, et c'est une bonne expérience. C'est encore très enrichissant personnellement. Mais pour être performant au haut niveau, c'est vraiment très dur de jouer tous ces tableaux-là. Donc voilà, finir ça. Et puis ce qui me permettra, je pense, derrière d'être mentalement et physiquement plus serein et plus frais pour pouvoir aborder la saison avec... là, prochainement, j'ai le trail du Ventoux le 12 mars. Après, je vais faire une course aux Pays-Bas. Ce qui me tient à cœur, c'est la Sarah Corica. C'est sur les flancs de la Rune, d'ailleurs. C'est une belle classique là-bas, un petit peu comme la Sky Rune. Et puis après, en gros objectif, ça va être le 90 km du Mont Blanc que j'avais remporté en 2018. Une course que j'adore, des paysages merveilleux, puis des terrains un petit peu comme on retrouve sur les Chapées Belles, des terrains d'entraînement où je m'entraîne habituellement, très technique. Et avec, je pense, sur un gros plateau de coureurs, encore une fois. Et l'UTMB cet été, ouais. L'UTMB avec le plateau qu'on commence à connaître.
Ouais, ouais, parce que certains ont annoncé leur venue, donc...
Ouais, ça va être une belle fête, on va dire. Ça va être épique. Il n'en manquera pas beaucoup, on va dire.
Ouais, c'est ça, il n'en manquera pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui ont annoncé leur venue, donc il y aura un sacré plateau. En tout cas, écoute, je te souhaite une belle préparation, un bon moment Ventoux, parce que ça arrive très vite, hein, par rapport... on enregistre, là, on est le 4 mars, donc c'est dans 10 jours, quoi.
Ouais, une dizaine de jours, un peu moins, ouais.
Ouais. Donc je te souhaite une belle course, je te souhaite bien finir ta maison aussi, parce que j'ai compris que c'était... je sais ce que c'est aussi, hein, quand on est dans les travaux, dans tous ces trucs-là, etc. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous les conseils, parce que, alors, moi je le dis, ça fait partie des épisodes, il faut réécouter, parce que tu nous as donné plein de conseils, mais aussi, je trouve que c'était chouette d'avoir ce partage aussi de cette vision de dire oui, la veille on peut manger un gâteau si ça fait plaisir, oui on peut se faire plaisir avec du fromage, etc. et tout aussi, parce que ça complexifie un peu la vision, mais ça décomplexe un peu l'approche qu'on peut avoir des fois, parce que c'est vrai qu'on peut se mettre une pression qui est importante, et c'était vraiment super important de te l'entendre dire. Alors merci beaucoup.
Avec plaisir, moi c'est vraiment un plaisir de d'avoir partagé avec toi et puis avec vous tous qui écouterez ce podcast. Ouais.
Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, si on veut te suivre, ah tiens, je t'ai pas demandé, est-ce que tu as un compte Instagram, Facebook, quelque chose comme ça pour t'encourager?
Ouais, j'ai un petit peu comme tout le monde aujourd'hui, j'ai mon réseau Instagram, Sylvain Cour, et puis mon Facebook, voilà.
Ça marche. Eh bien écoute, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, comme ça on pourra venir t'encourager, on pourra te suivre, on t'aggra pour que les gens viennent pouvoir t'encourager pour suivre, etc. Je t'ai pas demandé si t'avais une recette préférée, mais comme tu nous as parlé de millefeuilles, de tarte aux pommes, de pizza, etc. et tout, voilà, moi je vais rester là-dessus, hein. Mais bon,
hein. C'est déjà très bien. bien. Après, la frangipane, j'adore. C'est vraiment le plus grand kiff.
Voilà. Écoute. Et puis, les gens ont retenu aussi qu'il vaut mieux venir manger l'hiver avec toi, qu'il y a plus de fromage l'hiver que le reste de la saison, que le plat est un peu plus.
Ouais, voilà, c'est ça.
Un peu plus festif. Merci beaucoup, Sylvain. C'était un plaisir de discuter avec toi. C'était super enrichissant. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi et pour les conseils que tu nous as donnés. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre invité. Je vous dis pas le nom, mais bien entendu, bah, toujours, on sera dans la recherche de comment on peut progresser, comment on peut grappiller des petits conseils pour nous aussi, et ben, progresser et ben, essayer de faire aussi des belles courses. Merci beaucoup, Sylvain.
Merci à toi, Bertrand. Ciao, ciao.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.